France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à la littérature jeunesse à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil qui fête cette année sa 41e édition du 26 novembre au 1er décembre. L'occasion de comprendre comment cette littérature, par son audace et sa liberté de ton, interroge les grandes questions de notre époque.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord une autrice majeure du secteur, Marion Brunet. C'est bien simple, elle a obtenu cette année l'équivalent du prix Nobel de littérature jeunesse, le prix suédois Astrid Lindgren, pour l'ensemble de son œuvre. Ancienne éducatrice spécialisée, elle a travaillé auprès d'adolescents en difficulté avant de se consacrer pleinement à l'écriture, et son regard vif, politique, profondément humain irrigue tous ses livres. Avec sa trilogie Ilos, publiée chez Pocket Jeunesse, elle nous plonge dans une dystopie climatique où une bande d'adolescents affronte catastrophes, dérives autoritaires et paysages en ruine, tout en essayant de préserver leur amitié. Ces livres, tout le monde peut les lire. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Marion Brunet est aussi l'autrice de plusieurs romans noirs pour adultes, dont L'été circulaire, publié en 2018 chez Albin Michel, est récompensé par le Grand Prix de littérature policière. Enfin, nous irons du côté de la littérature pour les tout-petits, avec une autrice illustratrice au parcours singulier, Agathe Hennig, graphiste de formation, longtemps directrice artistique. Elle a choisi un jour de reprendre la main sur son travail en fondant sa propre maison d'édition pour créer exactement les livres qu'elle avait en tête, exigeants, inventifs, écologiques. Agathe Hennig détourne un objet du quotidien, le cahier de coloriage, pour le transformer en support narratif. Avec sa série de trois histoires à colorier dès 3 ans, Je suis un peu bleu, Je vois rouge et Jaune comme joie, elle propose des albums qui invitent les tout-petits à explorer leurs émotions. Avec elle, on parlera donc d'édition indépendante, d'intuition créatrice et de ce que la littérature jeunesse permet quand on la pense vraiment à hauteur d'enfant. Bienvenue dans cette émission spéciale Montreuil avec Agathe Hennig, Marion Brunet et nos libraires francophones. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Agathe Hennig, Marion Brunet, bonjour à toutes
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Agathe Hennig, vous êtes graphiste à l'origine, je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, oui.
Et vous aviez travaillé dans le packaging cosmétique.
Tout à fait, j'ai commencé par ça en effet.
Et ensuite, vous avez illustré des livres de cuisine de chefs étoilés, dont Alain Ducasse.
Ouais. Jacques Torel.
Comment vous en êtes venue à écrire pour les enfants ?
Depuis longtemps, en fait, même en passant mon diplôme à Penningen, j'avais en tête de faire des livres pour enfants, mais je ne m'en sentais pas capable, enfin, j'étais pas prête à me dire, je vais me lancer là-dedans. Donc je me suis dit, bon, je vais faire de la publicité, je vais faire du packaging, je vais faire quelque chose qui me paraît plus réaliste. Et en réalité, c'est remonté à la surface. Tout en faisant du packaging, j'ai commencé à dessiner de plus en plus. Et finalement, je me suis dit, mais j'ai le droit de dessiner.
Et comment ça se passe ? On envoie une histoire à une maison d'édition ?
Alors, en fait, ça a commencé d'une façon rigolote. C'est que moi, je me suis toujours intéressée à la cuisine. J'ai imaginé, en même temps que je travaillais avec Alain Ducasse, j'avais de mon côté imaginé une série de livres qui s'appelle Le Petit Maraîcher, avec des fruits et des légumes qui racontent leur histoire, qui racontent d'où ils viennent, comment ils poussent, quelles sont leurs variétés, et après j'ai mis quelques petites recettes. Et c'était un livre consacré à chaque fois à un fruit et un légume. Et j'ai proposé ça à Gallimard, et la semaine qui a suivi, Pierre Marchand m'a dit, banco,
c'est
parti.
Génial.
Donc j'ai démarré ma première collection, directrice de collection chez Gallimard, juste après avoir juste illustré des livres, en fait.
Vous, Marion Brunet, vous avez aussi écrit pour les enfants, pour les tout-petits. C'était aux éditions Sarbacane ?
Oui, alors c'était pas complètement pour les tout-petits, c'était pour les 8-12 ans.
Ah oui.
J'ai écrit une trilogie qui s'appelait L'ogre au pull vert moutarde, L'ogre au pull rose griotte et L'ogre à poil.
Oui, Thomas Hausser connaît.
Oui, j'adore. On les a toujours, j'adore. Trop drôle.
Merci.
Et vous ne voulez plus du tout écrire pour les enfants ?
Oh si, ça pourrait m'arriver à nouveau, mais c'est vrai que je m'éclate plus actuellement sur un public un peu plus âgé.
J'en parlais en introduction, vous avez été éducatrice spécialisée en foyer.
Ouais, dans plein d'endroits différents en fait, puisque j'ai fait ce métier-là pendant 13, 14, 15 ans presque, je crois. Donc j'ai bossé avec des femmes seules, avec enfants, j'ai bossé en psychiatrie, avec des adultes, avec des ados. Voilà, effectivement, en foyer aussi, avec des enfants placés par la justice. Et puis, là où j'ai le plus travaillé, c'était en hôpital de jour pour adolescents.
Ce que j'allais vous dire aussi, voilà. Dans l'univers hospitalier. Est-ce que ce parcours vous a poussé aussi à écrire pour les ados ? Est-ce que c'est ça l'origine ?
Non, c'est pas l'origine, parce que moi j'écrivais déjà depuis que je suis enfant, j'écris. En revanche, je pense que ça m'a ça a impliqué un certain nombre de choses pour moi, pour qui j'étais, en fait. Et ça m'a offert un regard sans jugement. Parce que c'est vraiment un métier où on n'est pas, absolument pas là pour juger, vraiment, et certainement encore moins pour condamner. Et on essaie de prendre les gens dans leur entièreté, voilà. Et ça m'a servi pour, dans l'écriture, pour créer des personnages pas trop dichotomiques.
Ouais, quoi. Enfin, pas trop manichéen.
Un peu,
et
voilà,
assez
un peu nuancé, un peu plus complexe. Voilà.
Alors on parle assez peu de littérature jeunesse dans les émissions littéraires, et pourtant c'est quand même là que tout se joue. Très tôt. Est-ce que vous vous sentez l'une et l'autre une responsabilité de faire aimer la lecture, Agathe Henning ?
Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. La lecture et le beau. En fait, moi, je m'intéresse aussi à ça. Je me dis qu'on peut commencer par ça, déjà apprendre à aimer le beau. Des belles choses bien fabriquées, pas plus chères que. Parce qu'on est toujours dans une gamme de prix qui commence à 5 euros, qui se termine à 20. Hein, donc, dans cette gamme de prix-là, on peut aussi faire des belles choses.
Et comment on explique. Le décrochage qui survient parfois à l'adolescence, Marion Brunet.
Alors moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer le décrochage. Je peux essayer de lutter contre en écrivant des histoires qui donnent envie aux jeunes de ne pas décrocher. Mais je n'ai pas forcément la solution là-dessus. Moi-même, j'ai un adolescent à la maison. Donc...
oui, ça fait partie aussi du...
Oui, bien sûr. Mais cela dit, moi, contrairement à ce que disent les chiffres, c'est vrai que je suis une indécrottable optimiste, malgré mes textes noirs. Et quand je rencontre des jeunes, parce que j'en rencontre pas mal au fil de l'année, je trouve quand même qu'il y a plein de jeunes qui aiment lire encore et qui se passionnent. Alors souvent, quand c'est accompagné aussi par des prescripteurs, donc des profs, des libraires, des documentalistes, des bibliothécaires,
heureusement qu'il y a la littérature ado aussi pour les accompagner dans cette
la romande période. Et la nouvelle...
Alors, je connais pas bien ça, je dois dire.
Oui, c'est pas tellement le genre de Marion Brunet d'écrire de la New Romance. Ça viendra peut-être, cela dit.
Oui, voilà.
Pas sûr.
Marion Brunet, d'ailleurs, vous qui écrivez pour les adolescents et pour les adultes, qu'est-ce qui change fondamentalement dans ces deux types de littérature ?
C'est compliqué, moi c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, quand j'écris. Est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que ce texte-là, je sens que je vais plutôt l'écrire en jeunesse ou plutôt en adulte. Je crois que c'est à la fois une question de prisme, c'est-à-dire qui raconte l'histoire, à travers les yeux de qui cette histoire est racontée, et le degré de désespérance. Je crois que quand j'écris pour les jeunes, je peux écrire tout à fait des histoires sombres avec des drames, des choses terribles, des deuils, tout ça, il n'y a pas d'interdit, mais en revanche, il y a quand même un petit peu de lumière au bout. Alors qu'en adulte, ça m'arrive d'écrire des bouquins où il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière au bout.
Donc vous vous sentez quand même une responsabilité pour répondre à la question que je posais tout à l'heure.
Ouais, je crois qu'au fond, il y a quelque chose de où j'arrive pas à... Et puis de toute façon, ça me paraît assez logique, parce que comme en jeunesse, j'ai des personnages qui sont plus jeunes, on a toujours beaucoup plus d'espoir quand on a du temps de vie devant soi que quand on en a moins.
Et pour toutes les deux, qu'est-ce qui déclenche un livre, l'idée d'un livre ? Est-ce que c'est quoi ? C'est une émotion ? C'est une rencontre ? Une scène que vous avez vue,
un souvenir ? Un manque, quelquefois. On se dit, mais tiens, ce truc-là, il faudrait vraiment y penser. Et en parler de cette manière-là, ça peut être intéressant. Voilà, moi, j'ai souvent fait comme ça. Mais même en packaging, quand je faisais du cosmétique, on regardait la concurrence, on regardait ce que les autres ne faisaient pas, et on essayait de trouver des bonnes idées, quoi.
Et vous, Marion Brunet ?
Moi, je pense que c'est quelque chose de plus personnel. Donc ça vient d'une obsession, d'un quelque chose qui va me trotter dans la tête et devenir urgent. Ça devient une urgence à un moment. Ça peut être un personnage, c'est souvent un personnage. Ça peut être parfois même une scène. Voilà, c'est plutôt par ça que ça commence. Et souvent, ça joint plusieurs obsessions. Ça peut être une obsession historique ou une obsession...
Vos obsessions, elles bougent ? Ou de livre en livre, il y a certaines qui reviennent ?
Je me rends compte qu'il y en a certaines qui reviennent.
Comme quoi ?
Je pense que la précarité sociale, c'est quelque chose qui revient beaucoup, les injustices sociales. Le désir de créer des personnages féminins forts aussi. Peut-être parce que j'ai eu aussi une enfance, dans ma génération, toutes les héroïnes étaient des héros, en fait. Mmh. Hein. Donc j'ai adoré les bouquins d'aventure, j'ai adoré les Trois Mousquetaires, j'ai adoré tous les bouquins de Jack London, voilà, Mark Twain. Enfin bon, il n'y avait pas de filles dedans, ou alors elles étaient vraiment très très cruches et très au second plan. Donc ça revient dans mes romans, je pense.
Heureusement qu'il y avait le Club des Cinq.
Alors, j'ai pas lu le Club des Cinq, mais je crois qu'en plus, les personnages de filles sont quand même pas extraordinaires.
Bah, en fait, je crois que l'héroïne, c'est un garçon manqué d'ailleurs. Enfin, c'est dit comme ça.
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui. Dans mon souvenir.
Oui, un peu comme voilà. Joe des Quatre filles du Docteur March, quoi. Il y en a une qui. Mais bon. Mais celle qui veut vivre pour elle-même ou faire des choses un peu intéressantes, c'est un garçon manqué, quoi.
Voilà, exactement. Marion Brunet, Agathe Henning, on se retrouve dans un instant, mais avant ça, on écoute Aurel San ailleurs.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut, 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 tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye. Adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye. Adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que j'suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye. Adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye. Adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'hiberne de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Marion Brunet et Agathe Henning pour une spéciale littérature jeunesse à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil. Et bonjour à Thomas Hausser.
Bonjour Lilia.
Notre libraire parisien présent en studio aujourd'hui. Marion Brunet, votre série Ilos se déroule dans un futur proche, Marseille 2052, marqué par le dérèglement climatique, tsunami, canicule, pollution. C'était quoi le point de départ de ce projet ?
Bah, le point de départ, c'était un constat assez terrible qu'on fait tous. Et j'étais aussi tombée sur des cartes prévisionnelles, en fait, de montée des eaux. Et avec, du coup, la prévision de disparition de certaines villes. J'ai trouvé ça assez incroyable d'imaginer le monde avec ces villes en moins, en fait.
Dont Marseille
Oui, Marseille fait partie, mais comme je crois que New York aussi. Enfin, moi, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et comme je vis à Marseille, je me suis dit, ça serait intéressant d'imaginer Marseille à moitié sous les eaux. Il y a plein de choses là-dedans qui sont fascinantes. Il y a à la fois tout le fantasme de la ville 10 ou l'Atlantide. Donc voilà, l'idée des villes sous l'eau, c'est quand même assez génial à imaginer. C'est assez terrible aussi, hein, mais bon, voilà, ça... On pouvait imaginer des plongées dans un univers sous-marin comme ça. Et évidemment, ben voilà, une fois de plus, ça me permettait d'explorer quand il y a des choses problématiques comme ça, que c'est toujours les mêmes qui vont en pâtir. Donc, et que ça ne va pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a le dérèglement climatique, mais on a aussi la disparition du service public, qui pour moi est une catastrophe. Donc il y a plus des adolescents qui ne savent pas lire, parce que quand on n'a pas les moyens de payer l'école, voilà, il n'y a plus de sécurité sociale dans ce monde-là, et il y a la montée des ultra-riches, et donc une grande paupérisation de la population. Donc Marseille est quand même une ville extrêmement pauvre, très très contrasté en termes de milieux sociaux, et c'est un bon laboratoire pour traiter de ces questions-là, donc pour ça aussi c'était intéressant. Ouais.
Et la dystopie, vous n'avez pas eu peur d'angoisser les adolescents ?
Ah mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour angoisser.
Certes.
Non, en fait, moi j'angoisse avec eux. J'ai pas l'impression, par exemple, de les mettre en garde ou de leur dire vous avez vu ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont sensibles aux mêmes choses que moi. Ils écoutent les mêmes choses, ils entendent les mêmes prédictions anxiogènes et réalistes. Et quelque part, pour moi, raconter cette histoire-là, c'est même être avec eux dans cette anxiété-là. Et mine de rien, il y a quand même aussi
de l'espoir.
Parce que il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la possibilité de s'unir, parce que je continue de garder cette vieille croyance que si on est plein, on peut y arriver mieux, ce genre de naïveté-là, quoi. Si on lutte à plusieurs, voilà. Donc j'amène ça quand même aussi dans le bouquin, même si c'est un contexte assez sombre.
Et pour ceux qui n'ont pas lu et qui n'ont pas forcément la référence mythologique, c'est quoi Ilos ? Je parle du titre de la saga.
Ah, mais il faut lire le... C'est un secret, on l'apprend dans le deuxième tome.
Bon, on ne dit pas ?
Ah, on ne dit pas, on ne dit pas.
La référence mythologique, on peut ? Non, on ne peut pas.
Si, on peut.
Bah oui,
c'est le créateur, Ilos, c'est le créateur de la ville de Troie.
Ouais. Voilà, ça donne un petit indice, on laisse le suspense, très bien. Quand on entre dans votre saga, on ne peut vraiment plus s'arrêter. Moi, je l'ai dévoré et je crois que c'est le cas de Thomas Hausser, notre libraire aussi. Je vous propose de nous lire un passage du premier tome. Alors, c'est au tout début. On fait la connaissance de Nolan, et de son frère Gal, deux adolescents marseillais très doués pour l'apnée. Ils ont grandi au bord de la Méditerranée, dans un monde où la mer est devenue aussi dangereuse qu'indispensable. Et là, tout bascule. Des malfrats envoyés par le grand méchant viennent de menacer Gal et lui ordonnent de plonger pour récupérer un objet sous l'eau qu'on devine donc précieux. Pour obliger Gal à plonger, ils prennent sa sœur, Nolan, en otage. C'est la scène d'ouverture du livre, une scène tendue, physique. Marion Brunet, je vous laisse nous lire ce passage. Gal a plongé et sa sœur attend qu'il remonte.
Nolan observe l'eau s'emplir depuis plusieurs minutes et l'anxiété monte en elle comme des bulles d'oxygène montent au cerveau quand on nage trop vite du fond vers la surface. Elle a pris sa respiration en même temps que son frère et commence à souffrir du manque d'air. Elle porte un short en jean très court pour ne pas entraver les mouvements de ses longues jambes. Un débardeur orange est trop grand, au logo d'une marque de bière, volé sur une terrasse. L'air chaud caresse son crâne rasé, ses pieds nus. Elle est d'une beauté à couper le souffle, brune et lisse, tout en jambes et en nervosité. Ses yeux d'un gris perlé lui offrent un regard dont tout le monde se souvient. Un des types du Commodore garde ses vieilles baskets dans un sac. Personne ne songerait à fuir pieds nus dans le dédale de la ville, pas même elle, plus rapide et vive qu'une anguille. Son cœur bat de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'au sang qui cogne dans sa poitrine. Et ça dure encore sous le soleil jusqu'à ce que Nolan craque, respire un grand coup, halète un peu. Des larmes se forment au coin de ses yeux parce que l'idée se forme au creux de sa tête. Son frère est mort. On dit qu'il est le meilleur apnéiste de la ville, mais elle sait qu'à quelques secondes près, elle le surpasse. Alors si elle a manqué d'air, immobile, il y a peu de chances pour qu'il s'en tire.
Thomas Hausser, vous êtes donc libraire à la librairie Lamandier à Puteaux, et vous aussi, vous êtes devenu addict à la série Ilos.
Oui, absolument. Alors, pour être tout à fait honnête, Marion, moi j'ai lu votre série Ilos grâce à Lilia et à son équipe. Alors, moi, je vous connaissais plutôt pour vos polars, qu'on a évoqués tout à l'heure, ou la série L'Ogre, chez Pépix, pour les plus jeunes. Et bien là, je dois dire que j'ai pas vu passer ma semaine. J'avais très hâte de rentrer chez moi chaque soir pour me plonger dans votre trilogie. Moi, votre Marseille submergée, vos personnages parfaitement incarnés, une histoire percutante qui se déploie habilement et un suspense qui monte vraiment crescendo. Alors, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Moi, j'aimais votre décor, les enjeux sociaux dont vous parliez, écologique aussi, hein, de l'histoire, la révolte des personnages, ça c'est formidable, leurs envies de vengeance, mais aussi d'entraide, d'amitié, et puis le souhait d'un monde meilleur et plus juste. Moi, je pense qu'on peut conseiller Ilos à tous les lecteurs, ados mais adultes aussi, hein, et je dirais même que je le conseillerais à ceux qui ne sont pas forcément fans de lecture. On parlait de certains ados qui décrochent un petit peu, tout ça. Franchement, on lit 5 pages du premier tome, et c'est foutu, on est accroché, on veut tout de suite la suite.
Ouais, je confirme. Et vous aviez une question, Thomas, pour Marion Brunet.
Oui, je me demandais, en fait, parce que si vous aviez dû écrire, Marion, une version pour adultes d'Ilos, qu'est-ce que vous auriez changé dans l'histoire ?
J'aurais peut-être pas changé grand-chose, mais j'aurais peut-être raconté d'un autre point de vue.
Ouais.
Peut-être, par exemple, du point de vue de Marie, la grand-mère de Bonnie,
oui.
Qui est plus donc de ma génération, hein. Si on compte, on en arrive là. Donc peut-être voilà, je l'aurais raconté d'un autre prisme.
Vous auriez pas envie de faire ça, d'écrire le même livre avec
non, versions. J'ai trop de, je préfère en écrire une autre histoire. Mais ça pourrait, il y a des, oui, ça peut être intéressant ça aussi, ouais, d'imaginer ou une suite.
Oui, avec un autre, point de vue.
Ouais,
une belle version adulte.
Ouais. Surtout que Bonnie, si je peux me permettre, enfin, la grand-mère de Bonnie, enfin, on l'adore.
Voilà. Ouais, on a envie de la suivre.
On voudrait bien avoir une histoire juste pour elle, quoi.
Voilà, on se transforme en ado tout de suite. Et pourquoi 2052, Marion
au
Brunet
pif.
Au pif. Ben non, c'est pas au pif. Est-ce que vous auriez pu choisir 3052
Non, je voulais que ce soit pas trop loin, en fait. Oui, c'est vrai, je dis au pif, mais c'est pas tout à fait vrai.
Jamais au pif.
C'est le 52 qui n'est pas...
voilà. C'est pas 53.
Voilà, c'était... mais je voulais qu'en termes de génération, ce soit justement pas si loin que ça, que ça se soit dégradé assez vite, mais j'avais pas envie d'inventer un monde qui soit totalement... je sais pas comment... Comment dire, ouais, déconnecté, avec des choses très nouvelles, des technologies nouvelles. Voilà. Moi, je suis pas très douée sur ces choses-là, et d'imaginer déjà même les sciences actuelles, j'ai du mal à suivre. Donc, je sais à peine me servir d'un téléphone portable. Donc, j'avais pas forcément envie d'inventer des choses comme ça, mais plus d'écrire un texte politique, en fait. Donc, d'aggraver la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et de parler de ces peurs-là.
Mais c'est vrai que les ados sont très politiques en réalité.
Moi, je le pense. Je le pense, même si parfois ils ne mettent pas ce mot-là dessus, oui. Mais en fait, ils ont un regard sur le monde. Mais souvent, on dit ils sont moins politisés qu'avant, ils sont moins mobilisés. Mais je ne crois pas, au contraire. Enfin, je trouve qu'il y a des groupes très, très vénères hein, de jeunes actuellement. Et dans toutes les générations, il y a eu des jeunes qui s'en foutaient de la situation du monde et des jeunes qui se sentaient préoccupés, touchés par.
Oui, parce que vous allez dans les classes, donc ils vous lisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ben, ça dépend. Voilà, il y a des jeunes à qui ça parle plus ou moins. Mm. Mais ouais, j'en vois quand même pas mal à qui ça parle. Les questions de réchauffement climatique, même les questions d'injustice sociale aussi, ça leur parle.
Merci Thomas Hausser. Mm. Marion Brunet, Agathe Henning, on se retrouve dans quelques minutes.
J'ai le cœur qui flambe quand je te vois. J'ai toute ma mémoire qui rêve de toi. Je peux écouter quand c'est ta voix. J'ai pas la force d'aller contre toi. J'aurais dit encore une fois, t'es pas vrai pour ce qui t'attend.
j'ai vraiment envie de savoir pourquoi tu ne me demandes pas autant de sentiments que j'en demande de toi. Mais t'es pas prêt pour ce qui t'attend. Je veux pas être un passe-temps. Serre-moi fort, casse-moi, serre-moi fort. Quand je vois, je fous, fous, fous.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Lou, scène de Yakuza, et nous sommes toujours en compagnie de Marion Brunet et Agathe Henning à l'occasion du 41e Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Agathe Henning, vous écrivez pour les petits. Est-ce que vous pourriez écrire pour les ados ou pour les adultes?
En fait, j'écris, mais quand j'écris, c'est plutôt du documentaire, hein, déjà, c'est pas de la fiction. Si je dois écrire, je fais écrire les gens, parce que comme je suis éditrice, et ben, je fais travailler les autres. Non, en fait, je m'intéresse qu'à des enfants jusqu'à 12 ans. Après l'adolescence, c'est vraiment autre chose pour moi. C'est pas mon registre.
Qu'est-ce qui vous intéresse moins dans l'adolescence?
La mienne, qui était affreuse.
Non, je sais pas. Sérieusement? Vous avez de mauvais souvenirs de votre adolescence?
Oui, assez mauvais, ouais. J'avoue.
Donc vous préférez vous réfugier dans l'enfance.
Oui, moi j'ai pas du tout aimé grandir. Hein. Non, vraiment. Hein. Encore maintenant, là, je trouve ça terrible d'être adulte, en fait. Non, j'aime beaucoup trop les enfants. Hein.
Est-ce qu'on pense aux parents quand on écrit pour les petits?
Oui, on pense aux parents. D'abord parce qu'ils vont, ce sont eux qui vont acheter les livres, hein, qui vont les choisir pour leurs enfants. Quoique maintenant, de plus en plus sur les salons, je vois des parents demander à leurs enfants ce qu'ils veulent, même quand ils sont dans le fond d'une poussette. Donc ça m'inquiète un peu. Mais sinon, je m'adresse aux parents parce que ils vont être eux les prescripteurs et choisir la matière, la qualité, le fond, le sens. Le sens profond du livre, enfin le fond et la forme. Donc c'est eux qui vont guider leur enfant, ouais. Mais je m'adresse aussi aux enfants, bien sûr, en premier aussi.
Marion Brunet, est-ce que vous pensez aux parents, vous?
Non.
En
fait, non. Je m'adresse aux adultes aussi. Quand j'écris, même quand j'écris en ado, je me dis que je vais être lue, mais c'est un magma, quoi. Je pense aux adultes en tant que lecteur, pas en tant que parent des ados qui achèteront le livre.
Et comment vous composez concrètement vos livres? Marion Brunet, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous travaillez de la même manière quand vous travaillez pour les ados et pour les adultes?
Oui, dans la construction, dans le travail de préparation, dans un petit peu les rituels que je vais mettre en place dans l'écriture, oui, c'est sensiblement les mêmes.
Et comment vous travaillez concrètement, vous? Est-ce que vous faites un plan, par exemple?
J'essaye. C'est pas toujours... rarement au tout début, mais j'essaie de faire ce qu'on... on va dire une sorte de d'arc narratif. C'est-à-dire de voir un petit peu où vont mes personnages, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, parce que je pense que c'est plus facile de raconter des débuts d'histoire qu'une histoire complète, et on a plein de débuts d'histoire en tête, mais il faut que ça tienne la route sur un peu longtemps, donc, pas sur longtemps, mais sur un roman, quoi, sur toute la construction d'un roman. Donc maintenant, j'essaie de travailler en amont, vraiment, pour avoir quand même les grandes lignes et savoir où je vais, avant de me mettre à l'écriture.
Parce que j'ai
donc,
trouvé
des fois,
vraiment,
je piaffe un peu, mais...
Ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est la manière dont vous composez vos personnages. Est-ce que vous faites des fiches personnages en amont? Est-ce que vous réfléchissez à leurs caractéristiques physiques, psychologiques?
Alors, physique, pas trop. En général, il y a quelques petites choses précises qui vont définir... bon, Nolan, on la repère tout de suite parce qu'elle a le crâne rasé, elle est très anguleuse, elle est maigre, elle est nerveuse, voilà. Bonnie, elle est plus... on sent qu'elle est un peu plus ronde, avec... mais il n'y a pas grand-chose, en fait. J'aime pas trop les décrire physiquement, j'aime mieux qu'on s'imagine. Je vais essayer de faire en sorte quand même qu'il n'y ait pas trop de personnages qui se ressemblent quand je décris une bande, parce que un groupe entier, c'est toujours un peu compliqué s'il y a deux personnalités qui sont trop proches, au bout d'un moment on va les confondre. Donc là je vais un peu essayer de donner en fait voilà, une personnalité différente à chaque personnage. Et voilà, et les grandes lignes. Et parfois je fais un chapitrage, mais quand je suis déjà à la moitié du bouquin. je commence à être capable d'organiser vraiment. Et puis après, j'ai tout un système de post-it sur les murs. Voilà.
Ah oui, comme une enquêtrice.
Ouais, je sais pas, mais...
Ouais. Je pense que ça doit aider, surtout.
Oui, bien sûr, ça aide d'avoir comme ça, de commencer à avoir un peu un...
Ouais, tu les visualises, quoi.
Ouais, j'arrive à visualiser au moins. Et surtout, quand il y a, par exemple, dans Hello, c'est quand même une trilogie. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dire de bêtises dans le premier si on veut pouvoir retomber sur ses pattes dans le troisième. Et,
vous saviez dès le début que ce serait une trilogie ?
Oui, j'avais très envie que ça en soit une. Et du coup, j'ai quand même réfléchi aux grandes lignes avant. Mais il y a eu plein de surprises au fil de l'écriture que j'avais pas...
Forcément, c'est le plaisir de l'écriture aussi. Agathe Henning, vous, comment vous construisez vos albums ?
Un peu comme des petits concepts, en fait. J'ai une idée en tête, et après ça, je pense très vite à la fabrication, à l'aspect.
À l'objet.
À l'objet. Parce que je pars toujours du principe qu'un livre, c'est un bel objet. Donc, il faut vraiment en tirer le maximum pour que, quand on le touche, déjà, on soit... voilà, on ait envie de le toucher, quoi, de l'ouvrir, de le... Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait des livres un peu atypiques.
Le livre Coup de bec devant moi. Et quand on l'ouvre, on a les oiseaux, différents oiseaux qu'on découvre.
Oui, en ouvrant le volet.
Un système
de
volet, voilà.
Et tout ça dans une belle fabrication, Made in France et tout. Je trouvais ça important.
Mais ce que j'allais vous demander, comment et pourquoi on en vient à créer sa maison d'édition indépendante ?
En fait, j'ai continué donc ma carrière à faire surtout du packaging d'édition, ce qui n'a rien à voir avec le packaging cosmétique, c'est le même mot mais ça n'a rien à voir. Et donc je me suis mise à créer des collections pour plusieurs éditeurs en fait, Gallimard, Hachette, Attier, Mango, Vienno aussi, Agnès Vienno qui faisait des livres de cuisine. Donc j'ai fait aussi un livre avec Pierre Hermé dans une petite collection que j'ai créée chez elle, etc. Mais j'arrivais jamais à trouver une fabrication comme je l'entendais. C'est-à-dire que quand on reste packager et qu'on propose donc des collections, on n'a pas la main sur la fabrication. On a une idée, on a la main sur le graphisme, parce qu'en plus, moi, je me proposais aussi comme illustratrice de mes propres collections. Et donc, du coup, tout ça, c'était bien chouette, mais une fois que j'avais fini de donner mes maquettes, mes mises en page, peut-être, éventuellement, mais même pas, mais surtout mes images et puis mon idée, et qu'on trouvait aussi quelquefois un auteur, parce que moi je me suis jamais placée comme autrice de fiction, hein, toujours pareil en tant qu'illustratrice, et bien à la fin je découvrais des livres qui n'étaient pas du tout comme je les aurais voulu, quoi. Mais je pouvais rien faire, c'était pas moi l'éditrice.
Vous n'avez pas les mêmes frustrations, Marion Brunet, en littérature jeunesse ?
Non. Oui, parce que là, moi, c'est du livre d'image, donc ça reste plus, c'est pas juste du texte, et il y avait de l'image, il y avait...
Mais par exemple, la couverture, vous avez votre mot à dire sur la...
Alors, la couverture...
Ça dépend des contrats.
J'ai mon mot à dire, mais a priori, en fait, c'est pas... C'est l'éditeur qui va décider, au final, de la couverture, mais il y a toujours une discussion qui se fait, et jusqu'à maintenant...
Vous avez toujours été d'accord.
Ouais, j'ai toujours trouvé ça chouette. En plus, je trouve vraiment que sur cette trilogie, il y a tout un jeu de couleurs avec
la couverture coupée en deux.
Là, comme ça. Je trouve ça super beau et ça attire l'œil, les couleurs sont belles. Donc,
Est-ce que cette trilogie, c'est une question qui me vient là, mais cette trilogie, elle pourrait être adaptée aussi je me disais que ça...
Ah, j'adorerais. J'aimerais beaucoup. Et même, je m'étais dit que ça pourrait être en film animé, en fait.
Oui, complètement.
J'aimerais bien aussi... je sais pas, dernièrement, j'ai vu Arcane. Je me disais, mais... ouais, voilà, on peut faire des choses comme ça aussi en animation. Et donc, pas juste pour les petits. Enfin, j'imaginais tout à fait ça.
Un graphique animé, des choses comme ça.
Ouais.
Dans tous les albums que vous avez faits, Agathe Henning, il y en a une vingtaine, c'est ça ?
Oui, pour ma maison d'édition. Ah oui.
C'est lequel dont vous êtes le plus fier ?
Coup de bec. Coup de bec, c'est un des premiers que j'ai fait. Je l'avais en tête depuis
longtemps. Celui dont je viens de parler,
oui,
avec
justement, oui,
les volets.
Ouais, tout à fait. Après, je l'ai développé en parce que, avec des queues. Donc le premier, c'est avec des becs, le deuxième avec des queues. Et parce que a tellement bien marché qu'il est, il est tout de suite, voilà, il a disparu. J'ai pas pu le refabriquer, malheureusement, par la suite. Mais par contre, il est sorti aux États-Unis l'année dernière. Donc je suis très fière d'avoir pu vendre les droits aux États-Unis.
Et nous partons en Suisse, où nous retrouvons au téléphone Annick Vermeau. Bonjour Annick.
Un lumineux bonjour des Alpes, Lilia.
Donc vous êtes libraire à la librairie Zach Thoré à Martigny et vous adorez les livres-objets d'Agathe Henning que vous avez découvert dans une autre vie, je crois.
Oui, en effet, j'ai été entre autres enseignante avant de reprendre la librairie. Et en classe, j'aimais bien utiliser le livre sous les feuilles avec son format original qui se déplie en accordéon. D'ailleurs, le nom, ça s'appelle un Leporello. J'adore ce nom. Je faisais parler les élèves autour de la grande presse des insectes. Je le trouvais super pratique avec les petites têtes rigolotes des insectes qui stimulaient l'imagination des enfants. Et puis, à l'arrière du pliage en accordéon, les indications plus scientifiques me permettaient de m'amuser à faire croire que je voyais à travers le livre. Donc, oyez, oyez, enseignants, parents, grands-parents, si vous cherchez de beaux ouvrages avec un contenu instructif mais attrayant, coloré avec un toucher agréable et doux, n'hésitez pas et mettez les livres d'Agathe Henning dans les petites et les grandes mains.
Ça vous fait plaisir ça, Agathe Henning, quand
gentil.
Ça vient d'enseignants.
Oui, tout à fait. Cette petite série est très très appréciée par les maîtresses de maternelle et de CP, parce qu'en effet, on les pose d'un côté, on a tout ce qui se passe sous la terre, sous la mer, sous les feuilles, sous la neige, et à l'arrière, il y a toutes les explications possibles sur ce que les enfants peuvent regarder de l'autre côté. Donc oui, ce sont des livres qui sont très appréciés. C'est comme une anti-sèche pour les parents, en fait.
Exactement.
Et Annie, vous aviez des questions très concrètes à poser à Agathe Henning.
Oui, ces livres qui sont si spéciaux et puis, si j'ose, au toucher gourmand, doivent affronter la valse des ouvrages vite produits par de grandes maisons. Est-ce que vous arrivez à sortir votre épingle du jeu face à la déferlante des livres, surtout maintenant, cette fin d'année ?
Pas vraiment, j'avoue. Mais, et en plus, des Leporellos, un Leporello, c'est un livre qui, une fois plié, il prend pas beaucoup de place. Et il est coincé comme ça entre plusieurs livres dans une librairie. Et le libraire n'a pas la place de le développer, de l'ouvrir. Et généralement, les libraires les aiment pas trop, ces livres-là. Même s'ils les trouvent jolis, mais ça les encombre plus qu'autre chose. Les gens n'osent pas les ouvrir. Bref, ce sont des livres c'est la fausse bonne idée. Mais malgré tout, une fois que les gens me les prennent, ils sont super ravis de les avoir eus. Mais la première intention est un peu difficile à stimuler, on va dire.
Comment on fait, Thomas Hosser, pour présenter ses livres ?
Bah ouais,
c'est le conseil
je crois
du libraire.
Vous avez tout dit, Agathe. Ouais, ouais, bah, le conseil du libraire, c'est du libraire un peu embarrassé, parce qu'effectivement, un Leporello, si on l'ouvre pas, c'est compliqué de le montrer.
Ah, c'est clair.
C'est compliqué. Bah,
réexpliquez-nous ce que c'est qu'un Leporello.
Bah, c'est un livre accordéon, donc c'est-à-dire que vous avez la couverture et le quatrième qui sont rigides, et puis vous prenez le livre, et puis bah, si vous avez des très très grands bras, vous pouvez, et en fonction de la taille du bouquin, vous pouvez vraiment étirer comme ça, et puis bah, ça se déplie, ça se déploie.
Il faut les mettre en vitrine.
Bah, idéalement, nous, ça nous arrive déjà, mais c'est tout est question de place en librairie. Mais idéalement, il faut faire une petite pile, il faut en mettre un qu'on
retire le plastique. Et puis que les gens puissent toucher, voilà.
Voilà, pour que les gens puissent manipuler, il faut en sacrifier un.
Voilà, il faut en sacrifier un. Moi, c'est ce que c'était
faire
mon idée.
Un livre de démo. Et voilà, mais comme dit Annick, la place. Enfin voilà, et Agathe aussi, la place est. Et chèrement gagné en librairie, et voilà, on essaye, mais ouais. C'est pas facile.
Oui, mais pourtant, je trouve que c'est un plaisir de lecture, pour le coup, hein, quand c'est déplié. En plus, là, vraiment, les thèmes choisis sont rigolos, parce qu'on a vraiment une image de coupe, en fait, de la Terre, et on voit au-dessus, en dessous, c'est rigolo.
Oui, et puis au-delà de ça, en plus, il y a des parents qui recherchent ce type de livre, mais il y a aussi quand même, moi je vois en librairie, quand même pas mal de collectivités, notamment, ça sert de très bon support en classe.
Ah bah c'est...
C'est irremplaçable.
Un outil extraordinaire.
Voilà,
pour
c'est un outil.
Ouais.
Et même quand il y a l'heure du compte, dans certaines bibliothèques, alors nous, on n'a pas trop l'occasion de faire ça, mais dans certaines médiathèques avec qui on travaille, etc., on voit que les livres d'Agathe, entre autres, sont vraiment recherchés parce que pour les usagers, pour pouvoir lire et partager, on peut vraiment le faire à plusieurs, ce qui n'est pas finalement toujours le cas des livres qui se déploient pas.
Ouais. Annick, vous aviez une dernière question ?
Alors, vos livres sont conçus avec du très très beau papier, très sensuel. Est-ce que lors de la réalisation de vos aquarelles, c'est aussi un besoin d'avoir un beau papier au toucher, parce qu'il existe des papiers plus doux que d'autres ? Et quelle sorte de pinceau et d'aquarelle est-ce que vous utilisez ?
Alors, je travaille, c'est vrai, de plus en plus à l'aquarelle. J'ai démarré avec l'acrylique, après je suis passée au feutre, et puis maintenant je travaille vraiment beaucoup à l'aquarelle. Et c'est vrai que je fais en sorte, et je pense que ma maison d'édition est surtout connue pour ça, pour la qualité du papier que j'utilise pour tous les livres que j'ai publiés jusqu'à présent, avec de la matière, avec... Je trouve que le livre, ça reste un plaisir du toucher. Donc c'est pour
Mais
ça
comment
que...
on s'en sort financièrement quand on fait des choix comme ça
Très mal.
Non mais c'est difficile.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je veux faire de la qualité. Donc je fabrique pratiquement tout le temps en France. Et fabriquer en France, c'est super chouette, mais ça coûte très très cher.
Et donc c'est qu'est-ce que vous avez
dit ? Les derniers livres là dont on a parlé, c'est-à-dire les trois livres sur les émotions, j'ai dû faire un ulule pour les publier quoi.
Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les maisons d'édition indépendantes jeunesse, elles sont...
Elles ont des aides, généralement, de la région, si elles arrivent à remplir le dossier d'aide qui fait 25 pages, etc. Mais bon, elles ont des aides. Mais maintenant, on ne peut pas vivre que de ça. Enfin, ça devient fou, quoi.
Qu'est-ce que vous faites à côté ?
Alors, moi, je fais des animations dans les classes, le plus possible. Je cherche à en faire encore et encore, parce que c'est toujours bien. Parce que comme j'ai plusieurs casquettes, je me propose comme... Bon, je suis illustratrice, mais je suis aussi graphiste et directeur artistique et éditrice, donc je montre aux enfants, même aux plus grands, comment on peut partir d'un tout premier croquis, d'une première idée, et comment on peut développer le livre du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fabrication, jusqu'au travail que je fais avec l'imprimeur, où je choisis le papier, où on fait des essais, où on fait des pliages, où on... voilà, et ça c'est ce qui plaît beaucoup, mais c'est même sans plaire, je veux dire, c'est intéressant de voir un peu cette approche-là. Et je fais surtout ça, beaucoup de... J'essaye, j'espère, et je fais beaucoup de salons aussi, où là, je peux faire de la vente directe, ce qui n'est pas toujours le cas, même jamais le cas quand on a le libraire et puis beaucoup d'intermédiaires.
Merci beaucoup, Annick. Agathe Henning, Marion Brunet, c'était quoi vos livres préférés, vous, quand vous étiez enfant et ado ?
Moi, j'adorais Alain Gray. Donc, il vient de mourir il y a assez peu de temps. C'était mon idole. Et c'était aussi un grand copain de mon autre idole, Pierre Marchand, qui a été mon papa d'édition. Pierre Marchand, il ne faut pas oublier, c'est le monsieur qui a créé les premières découvertes chez Gallimard.
Donc, et si vous aviez un livre ?
Alors, un livre, mais j'adorais aussi Martine. Pierre, comment il s'appelle ? Marlier, il est mort aussi il n'y a pas longtemps. J'adorais ses dessins, que je trouvais absolument magnifiques. Je rêvais que d'une chose, c'est de dessiner aussi bien que
M. Marlier.
Ah, j'adorais Marlier. J'adorais Martine, ouais, vraiment.
Et vous, Marion Brunet ?
Enfant, bah, c'est dur, il y en avait plein. Mais je dirais Le chat du bord de... Aldridge, je crois. Ça, c'est un peu le propre des enfants. Et même des ados, c'est assez terrible. Ils se souviennent des bouquins, mais pas des auteurs.
Bah forcément.
Voilà, il y avait Le chat du bord. Et
c'est comme Le chien bleu, j'arrive jamais à me souvenir.
Nadja, jamais.
Voilà. Oui. Et si je peux en dire un petit deuxième, non, il faut en dire qu'un seul.
Aussi, un deuxième. Pas de...
Les mystères d'Harris Burdick, qui est un bouquin exceptionnel, où en fait, c'est une fausse histoire derrière ce bouquin, c'est un mystère. Il est raconté au début du bouquin qu'un homme est arrivé un jour chez l'éditeur à proposer des dessins avec une seule phrase qui accompagnait les dessins, en disant « je reviendrai avec les textes si ça vous plaît », et il n'est jamais revenu. Et donc, 10 ans plus tard, l'éditeur décide de le publier tel quel, avec donc des images très mystérieuses et une seule phrase qui accompagne l'image.
C'est quoi le titre ?
Les mystères d'Harris Burdick.
Les mystères d'Harris.
Et en fait, c'est une invention. C'est un auteur derrière ça. Mais voilà, j'avais adoré. Et quand j'étais enfant, j'étais persuadée, j'ai cru à ce mystère-là. Je trouvais ça incroyable.
Ah, c'est incroyable. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. On poursuit cette conversation dans quelques instants avec les recommandations, conseils, lecture de nos libraires. Mais d'abord, on écoute La femme sur la planche.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie des autrices Marion Brunet et Agathe Hennig. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Je vous demanderai tout à l'heure, Marion Brunet et Agathe Hennig, vos conseils lecture pour les fêtes de fin d'année. Mais d'abord, je vais poser la question à nos libraires. Thomas Hausser, vous aviez un conseil pour Marion Brunet et puis pour tout le monde.
Oui, absolument. C'est vrai qu'en vous lisant, Marion, j'ai beaucoup pensé, surtout pour le côté addictif, au dernier roman de l'américaine Marisha Peschel. Le titre, c'est Darkly. C'est chez Élégie Gallimard Jeunesse. Pour l'histoire, en un mot, il s'agit d'une bande d'ados qui sont débarqués sur une île. Ils doivent découvrir, tester et surtout résoudre le dernier escape game d'une star mondiale des jeux qui a mystérieusement disparu. Alors, comme dans vos romans, c'est très bien construit, c'est très intelligent, les personnages sont attachants et complexes, on les suit puis vraiment on les lâche plus. Là où vous, Marion, vous excellez dans la dystopie, elle, Marisha Peschel, elle excelle dans la psychologie, avec des sentiments forts, il y a du frisson. Comme vous, elle a l'art d'inventer les situations, les ambiances, et puis de nous embarquer dans l'angoisse. Et elle a signé de nombreux best-sellers. Hein. Elle avait écrit pour adultes La physique des catastrophes en 2006, chez Gallimard. Moi, je dirais des romans à hauteur d'adolescent, entre le roman et le merveilleux d'un Roald Dahl, et l'angoisse d'un Stephen King. C'est ça, Marisha Peschel, et nous, on adore à la mendier.
Ça donne envie. Ouais. Brunet, vous connaissiez ?
Non, ça donne envie, en effet.
Merci Thomas, le titre c'est Darkly et Marisha Peschel, c'est ça Marisha Peschel ?
Peschel, je dis, moi.
C'est chez Gallimard Jeunesse, non ?
Oui, exactement.
Élégie.
Si, si. Oui, c'est une collection, c'est une nouvelle collection.
Je ne connaissais pas.
Ouais, pour les jeunes adultes. Ouais.
Et vous, Annick Vermeaux, en tant que libraire, quel livre jeunesse vous nous recommandez ?
Alors, pour taquiner un petit peu, j'ai choisi des livres peu communs. Je vous propose de découvrir le génial explorateur des limites de la BD, Marc-Antoine Mathieu. Il est habitué à proposer des récits au contenu qui interrogent la réalité, la perception, la physique et la narration. Ses ouvrages, avec un élégant dessin en noir et blanc, doivent toujours être de parfaits casse-têtes, voire des sources d'angoisse abyssales pour les imprimeurs, vu leur mise en page si particulière. Marc-Antoine Mathieu se révèle non seulement un graphiste hors pair, mais également un conteur de talent. Cette année, il revient avec un album grand comme un timbre-poste, qui met en tête-à-tête un physicien et un philosophe qui s'affrontent sur l'insaisissable notion qu'est l'infiniment petit. C'est une véritable expérience de lecture qui fait ressentir l'infiniment petit avec un livre rikiki, alors que les protagonistes débattent dans des cases de bande dessinée à la pagination normale d'une BD sur l'infiniment grand. Je vous rassure, l'ouvrage est livré avec sa loupe. Alors, toute bonne lecture.
Oui, alors j'ai vu le livre, effectivement, il faut avoir de très très bons yeux ou une très bonne loupe. C'est l'infiniment moyen et plus si affinité dans les limites finies d'une édition minimaliste. Voilà le titre, par Marc-Antoine Mathieu, édition Delcourt. Merci Annick. C'est ce que je trouve assez génial en fait avec la littérature jeunesse, c'est qu'on peut tous permettre, Marion Brunet.
Ben, en effet, moi je trouve que c'est quand même un secteur où il y a énormément de liberté et de propositions, y compris de style. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, en fait, il y a cette idée que la jeunesse est formatée. Moi, la littérature jeunesse est formatée, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense au contraire qu'il y a vraiment des propositions stylistiques, narratives, incroyables.
Beaucoup plus vastes qu'en littérature adulte.
Mais complètement. Et que ce soit aussi bien pour les petits. Justement, quand on est dans l'album, il y a des choses incroyables que dans la littérature ado aussi. Vraiment.
Et moi aussi, j'ai une recommandation pour les enfants mélomanes. Je recommande Le roi qui tombait amoureux de Mathieu Laine et Louis Thomas chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre disque. Vous avez l'histoire et la musique. L'histoire est racontée par Guillaume Gallienne avec Carole Beffa au piano, Renaud Capuçon au violon, rien que ça. Et c'est vraiment génial. D'ailleurs, le premier, Le roi qui n'aimait pas la musique, avait cartonné. Et on peut vraiment offrir ces deux livres à tous les enfants à n'importe quel âge. C'est un très beau cadeau. Vous, Agathe Hennig, Marion Brunet, un conseil lecture rapide à mettre sous le sapin, Agathe Hennig?
Ce serait Matryoshka, illustré par Sébastien Pelon. Je ne connais pas l'éditeur, mais enfin, j'adore cet illustrateur. Je trouve ce qu'il fait absolument magnifique. Il a vraiment un style très, très magnifique. J'adore.
Matryoshka, Sébastien Pelon. Et vous, Marion Brunet?
Moi, j'en ai un peu plus que juste une.
Allez-y.
Bon. Alors,
moi aussi, j'ai plein d'illustrateurs à vous proposer.
Moi, c'est plutôt des ados. Hein. J'ai ciblé l'IT ado. Donc, de Six délicieux enfants, de Flore Vesco. Qui a une plume incroyable, elle c'est vraiment la reine de la langue et elle joue avec la langue et avec les contes, j'adore. Neb de Caroline Solé, qui interroge un petit peu notre rapport au numérique, on va dire. Seb Gendron réel, lui aussi, qui interroge aussi le numérique, mais alors d'une façon totalement différente. C'est très très intéressant. Moi j'ai adoré, j'étais complètement accro, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et en dernier, je dirais « Nous dominions le monde » de Vincent Villeminot.
Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez toutes les deux au salon du livre de Montreuil. Agathe Henning, vous y êtes tous les jours ?
Ah, tout le long, tous les jours. J'ai mon petit stand dans le coin du Grand Marché, qui est le coin des petits éditeurs indépendants. Donc, c'est au premier étage et toutes les instits, les bibliothécaires se passent le mot pour aller là-haut et voir des nouveautés.
Et vous
des
faites de très belles dédicaces.
Oui, j'arrête pas, je dessine les enfants qui posent pour moi, en fait. Et ça, c'est plutôt
voilà,
rigolo.
Si vous avez un cadeau à faire. Oui. Et Marion Brunet, vous serez, en dédicace tous les après-midi du week-end, c'est
oui,
ça ?
Oui, moi par contre, je dessine pas. Hein. Je préviens tout de suite.
C'est assez décevant.
T'as qu'à donner des bonbons.
Ouais, je sais, mais j'ai des petites.
J'ai trouvé autre
tampons.
Chose.
J'ai des, ah, bah voilà. Oui, j'ai des petits tampons.
Bon, bah voilà, si vous voulez vous faire dessiner ou tamponner.
Et je suis sur le stand de PKJ, Pocket Jeunesse.
Pocket Jeunesse, voilà. Très bien. Merci à Agathe Henning et Marion Brunet. C'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais recommander vos livres à vous. Et d'abord, la trilogie Ilos de Marion Brunet, publiée chez Pocket Jeunesse. Un grand récit d'aventure et de dystopie climatique portée par une bande d'adolescents qui se débattent avec le monde qu'on leur laisse. Une fresque politique qui justifie amplement le prix que vous avez reçu cette année. Et pour ceux qui vous lisent déjà, je rappelle que vous êtes aussi une grande autrice de romans noirs pour adultes, L'été circulaire, publié chez Albin Michel, mais aussi Vanda, Nos armes ou encore Katia, avec toujours une réflexion sociale en toile de fond. Pour les tout petits, je recommande les albums d'Agathe Henning, publiés chez A. Je suis un peu bleue, je vois rouge, jaune comme joie. Et ceux dont on a parlé, coup de bec.
Jaune comme joie qui va être dédicacé par Pierre Caillou sur mon stand.
Ah voilà, trois aussi. Histoires à colorier dès 3 ans qui invitent les enfants à explorer leurs émotions en coloriant leur propre version du monde. Merci également à nos libraires du jour, Thomas Hausser et Annick Vermeaux. Ce samedi, il y avait Lilian Allôme à la réalisation, Jérôme Ragano à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'au livre, etc. est une coproduction de la RTBF, de la RTS et de Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.